les rabais, les berlieux, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Alors Léa, tu as été au musée d'art contemporain cette semaine, pour ne pas changer, j'ai envie de dire.
Pour ne pas changer, je ne suis pas tant que ça. Bon, alors une petite, une récente polémique vous a peut-être informé qu'Adel Abdesmet, y exposait. Je ne reviendrai pas sur cette histoire de poulet, mais plutôt sur l'artiste lui-même. Il est né à Constantine et sa trajectoire a souvent croisé la route de l'histoire avec un grand H, d'ailleurs souvent dans le mauvais sens, alors... Bah chez lui, ça fait comme des accros. C'est Isabelle Bertolotti, directrice des expositions au MAC, qui va nous en parler un peu plus.
Dans les années 94, il était jeune étudiant en Algérie. C'est une période avec des agitations importantes en Algérie. Et il a assisté effectivement à l'assassinat de son directeur et du fils de son directeur de l'école d'art d'Alger, qui a été quand même assez traumatisant. La situation étant telle qu'il a été obligé de quitter le pays.
Il est donc exfiltré d'Algérie par des réseaux chrétiens et se retrouve ici à Lyon.
Et il s'est retrouvé à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Et à Lyon, il a aussi fréquenté un bar qui s'appelait l'Antidote.
L'Antidote, un bar qui donne son nom à l'exposition. Elle est donc très personnelle. On y verra des petites maquettes reproduisant en miniature ces lieux liés à la vie intime de l'artiste et qui ont été peut-être ses antidotes à lui. Si l'angle est biographique, les thèmes et les moyens d'expression de l'artiste suggèrent aussi une agitation, qui sont les marques d'un environnement hostile, des coups de griffe de l'histoire et d'une violence toujours larvée quelque part. C'est là, ça vibre, par exemple, sous un faisceau de traits au charbon.
Il dessine au charbon noir sur papier, et on sent cette une forme de violence, mais qui n'est en fait plus un débordement d'énergie, et une folle envie de dire des choses. Alors ça peut être un cheval, un animal, un cerf, enfin en tout cas on ressent cette énergie. Alors cette violence elle est à travers l'énergie plutôt que dans le contenu, parce qu'on va avoir un pigeon, on va avoir une tortue, si ce n'est que sur le dos de la tortue il y a un petit pain de dynamite.
Un pain de dynamite. Alors on comprend qu'à travers certains détails, son œuvre accueille sûrement aussi des problématiques politiques. À ce sujet, l'œuvre qui s'impose le plus, c'est peut-être celle qui s'appelle Shams, soleil en arabe. Peut-être ironiquement d'ailleurs, elle occupe en fait tout le dernier étage du musée. Et là-haut, le visiteur circule dans l'œuvre, comme dans une sorte de gros ventre d'argile, où des figures humaines sortent des murs, en comptant une sorte d'épopée, à la fois historique et imaginaire.
Ici, il y a 40 tonnes d'argile. Et de cette argile sort des personnages. On est dans une sorte de tranchée avec des quelques soldats qui ont l'air de surveiller une armée ou voir des gens qui travaillent, qui portent des sacs, des travailleurs. Et donc cette idée à la fois de souffrance, d'esclavage, de travail forcé, on se retrouve dans une forme aussi de critique, d'exploitation de l'homme par l'homme, et des conditions extrêmement difficiles qu'on peut rencontrer dans certains endroits, voire même dans le monde, hein, on va pas non plus se leurrer.
Donc c'est un haut-relief qui, s'il poétise, certes, sûrement, l'histoire et l'actualité, n'entend pas pour autant voiler les faces, Sarah.
Et donc, Léa, l'exposition s'appelle L'Antidote, et jusqu'à quand on peut la voir?
C'est jusqu'au 8 juillet, donc vous avez le temps au Musée d'art contemporain de Lyon.
Et alors, il y a une revue littéraire qui s'apprête à paraître à Lyon.
Oui, peut-être que nos éditeurs ont reçu un appel à texte il y a quelques mois en provenance d'un groupe d'étudiants lyonnais, qui sera bientôt une association et qui se donne le nom de La Griffe. Maintenant, les textes ont été lus, classés et sélectionnés, la couverture choisie, et bientôt vous pourrez avoir entre vos mains une petite griffe donc.
Oh, c'est très sympa. Et qui a écrit les textes, qu'on pourra y lire?
Uniquement des étudiants, car c'est le but explicite de cette revue que de nous inciter à sortir nos textes de nos tiroirs. J'ai interrogé les fondateurs de la revue, et c'est lors d'échanges à l'étranger qu'ils ont découvert des pratiques littéraires bien plus libérées que les nôtres. On écoute Lucie, qui est à Montréal.
J'étais à l'étranger l'année dernière. On m'a emmenée tout à fait par hasard dans une soirée de lancement de revue. Il s'avérait que c'était une revue étudiante d'une des universités de Montréal, l'UDEM. J'ai passé une super soirée parce qu'il y avait une quinzaine d'étudiants qui ont lu des textes. J'ai trouvé ça super chouette. J'avais jamais songé à ce genre de choses avant et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas à l'ENS?
Et pour Thomas, c'est un peu la même chose.
Moi aussi, je revenais de l'étranger, en fait. J'étais un an en Angleterre. J'avais deux de mes élèves qui étaient des élèves de terminale en Angleterre qui avaient déjà écrit des pièces de théâtre en français. Et je me suis dit, il y a des élèves étrangers qui ont 5 ans de moins que moi, 4-5 ans de moins que moi, qui ont déjà écrit, mis en scène, publié des textes en français alors qu'ils sont anglais. Et je me suis dit, c'est hallucinant que à l'ENS, où quand même les gens savent plutôt écrire normalement, on soit même pas capable d'être au niveau de ces petits lycéens étrangers. C'est presque un scandale qu'on sache tous écrire et qu'on ait écrit des tonnes et des tonnes de pages et qu'on ne soit pas capable de publier un quatrain dans une revue.
Alors, est-ce que nous, les Français, serions particulièrement pudiques ?
L'écriture est plus inhibée de manière générale en France, j'ai l'impression. En tout cas, les Canadiens m'ont donné l'impression d'être beaucoup plus modestes et en même temps libérés sur leur pratique de l'écriture.
C'est toujours difficile pour un Français d'oser dire comme ça devant un micro, comme je suis en train de le faire, oui, j'écrivais. Oui, quand j'étais au lycée ou en prépa, je me suis pris à écrire un ou deux poèmes. Mais on a tous honte de le dire. Oui, je suis même parti de ça, de ma honte à moi. Je me suis dit, pourquoi j'ai honte ? C'est vrai que c'est un petit peu ridicule, mais finalement, si on est beaucoup à avoir honte en même temps, ça peut être très sympa de faire une revue où tout le monde a honte de publier ses textes. Finalement, c'est comme ça que ça commence.
En rentrant du Canada, Lucie publie sur Facebook une annonce pour fonder la revue. Thomas la rejoint et quelques temps après, ils réunissent un comité de lecture, soit 10 autres étudiants qui liront 70 textes, les textes reçus. Parmi eux, Valérian et Jean-Baptiste, deux sensibilités littéraires bien différentes.
C'est enthousiasmant de voir que d'autres personnes se prêtent au jeu.
Il y a quelques textes, oui, qui ont laissé des émotions particulières, des ressentis plus forts.
Il y a des textes qui sont vraiment dans une sorte de beauté de l'instant qui est appréciable, qui peut manquer dans les publications qu'on peut lire par ailleurs.
On pourrait penser plus particulièrement à un texte qui est assez formidable parce qu'on a l'impression que ça va être quelque chose d'assez convenu, puis il y a un retournement de situation à la fin qui donne une toute nouvelle dimension à l'ensemble du texte.
Et l'idée, c'est aussi que les auteurs puissent entendre les avis de ces nouveaux lecteurs.
Moi, le mien, il a eu le malheur de ne pas être sélectionné. Bien sûr, ça m'a fait un coup de me dire « Ah tiens, je ne serai pas publié dans la revue que j'ai contribué à monter. » Mais finalement, ça fait complètement partie du projet. Et c'est aussi intéressant d'avoir des retours sur ces textes. C'est la première fois que quelqu'un me disait ce qui n'allait pas dans mes textes, etc. Parce que tout simplement, comme un con, je n'avais pas osé le montrer à d'autres gens avant. Et je trouve ça génial, même si on n'est pas sélectionné, d'avoir des gens qui nous lisent avec attention, qui prennent le temps de nous lire et de nous dire « Bah là, ça va. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. » Et même d'entendre des débats autour de son texte, rien que ça. C'est déjà énorme. Enfin, moi, j'avais jamais vu ni vécu ça avant.
Et alors, une question taraude notre Sarah nationale. Pourquoi ce titre, La Griffe ?
On voulait quelque chose qui soit à la fois un peu décalé, pas sérieux, puisqu'il s'agissait de décloisonner des pratiques habituelles d'écriture, et en même temps, qui soit pas non plus trop ludique, trop gratuit, en fait.
On s'est dit que ça ferait un écho à Sébastien Griffe, qui était le prince des imprimeurs lyonnais du 16e. Donc il y a cette idée qu'on a un ancrage un peu dans le coin de Lyon et cette idée qu'on va imprimer un peu comme au 16e siècle à l'artisanal. La griffe, c'est aussi l'incision, c'est le fait de faire des textes qui frappent un petit peu. C'est 4 pages maximum par texte, donc ça demande une sorte de puissance de frappe qui n'est pas toujours au rendez-vous dans les textes contemporains.
C'est donc une contemporanéité différente que La Griffe veut montrer.
Là, avec la revue étudiante, on va revenir vers des choses peut-être plus proches du réel, du quotidien, plus modernes, qui sont plus jeunes, authentiquement jeunes. Et on a des textes qui vont nous parler de nécrophilie. Voilà, on va publier un texte qui parle de nécrophilie. D'autres textes sur des thèmes beaucoup plus simples. Des textes sur une manifestation absurde qui rappelait un petit peu peut-être Nuit debout, etc. Enfin, on est dans quelque chose de très concret, de très ancré dans la vie des jeunes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez rare dans le panorama de la littérature aujourd'hui.
Bah quoi, la nécrophilie fait pas partie de ton quotidien, Sarah ?
Bah, mais non, pas du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça.
Bon, La Griffe sera publiée mi-mai et le lancement aura lieu dans un bar lyonnais dont l'adresse reste à déterminer. Gardez l'œil donc sur La Griffe et en attendant, nous voici en présence d'une main griffue, celle de Valentin. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Bonjour.
Ton micro. Ton texte a été sélectionné, est-ce que tu peux nous le lire s'il te plaît ?
Le micro marche. Parmi toutes les sources de frustration et de vieillissement précoce qui étaient à leur portée, ils avaient choisi la vie conjugale. Cette dernière prenait place dans le petit appartement, supposé provisoire, dans lequel ils avaient fini par s'emmurer définitivement, s'accommodant du manque de place et de l'unique chambre qui rendait compliquée toute compagnie nocturne autre que la leur et qui avait éloigné, à jamais, la possibilité d'un enfant, dont le prénom avait de toute façon toujours été prétexte à des disputes stériles. La décoration aussi était à l'origine de nombreuses discussions houleuses et inutiles. Non pas tant parce que leurs goûts en la matière divergeaient, car c'était au contraire dans un tristement rapide consensus que leurs choix respectifs, jamais polémiques ni audacieux, s'accordaient dans les rayons, mais plutôt parce qu'ils n'avaient absolument pas le même sens des couleurs. Elle préférait les tons chauds, et s'était mystérieusement prise de passion pour le rouge d'Andrinople qu'elle trouvait plus affirmé que le vermillon. Lui, qui n'aimait que le bleu, ne se sentait alors complètement à l'aise que dans la salle de bain où elle lui avait laissé la liberté des serviettes et du rideau de douche. C'était de loin la pièce qu'il préférait, et peut-être même la seule dans laquelle il n'avait jamais soupiré, pas même intérieurement. Ils avaient pour habitude de se lever à la même heure, bien qu'il lui faille plus de temps à elle pour véritablement émerger. Autrefois, ils se caressaient paresseusement le matin, avec des gestes machinaux qui n'aboutissaient à rien, mais qu'ils répétaient chacun à son tour, comme pour vérifier que l'autre, malgré la fatigue et le manque d'envie, pouvait y apporter une réponse. Maintenant, il faisait tout pour sortir au plus vite du lit.
Merci beaucoup Valentin pour cette merveilleuse lecture de texte, de ton texte.
Et maintenant, nos actualités venues d'ailleurs. Il arrive à Sarah de faire pour nous un petit tour de France et de nous indiquer les événements majeurs. Majeurs, Sarah, ou farfelus peut-être.
Voyons Léa, toi aussi tu ribaudes dans les couloirs interlopes de l'art. Eh bien, pour cette édition spéciale JDR, j'ai décidé de me dorer l'épiderme au soleil, ça se voit, et nous partons dans le sud.
Je parie que tu vas commencer cette intervention. Je suis toute chose par la ville dont tu viens. Alors, c'est Bordeaux, il me semble.
Ha ha ha. Comment l'as-tu deviné, Léa? Cela dit, mon introduction nous emmène d'abord en Extrême-Orient. En effet, c'est à l'époque Edo, soit au début du XVIIe, que naît un théâtre d'avant-garde au Japon, le kabuki. Ces trois idéogrammes symbolisent le chant, la danse et l'habileté technique. Au 21e, un article du Monde y compare l'artiste Damir Hotchko, d'origine croate.
Effectivement, la Croatie et le Japon se situent à Bordeaux, comme chacun sait.
Bah oui, voyons. Non, mais je blablate des histoires à dormir éveillé, c'est un peu le thème de la journée, la fiction. Mais j'y viens. Revenons-en à notre ami Damir, Dada pour les intimes, et vous comprendrez le jeu de mots d'ici une minute si vous m'écoutez bien, chers auditeurs. La rhétorique de son œuvre questionne notre langage contemporain sous la scène de jeux dominant-dominé. Les hashtags des réseaux sociaux, les diatribes publicitaires qui tournent à vide, ne vident-ils pas, finalement, les mots de leur signification originelle? Prenons l'exemple des safe words des clubs SM que Madame fréquente en secret. Damir Hotchko présente un langage dont la performativité a pour prix la perte de ce sens originel. Et au CAPC, vous aurez l'occasion d'entrer dans un univers malsain, aux confins de l'absurde, avec l'exposition consacrée au film Dicta 2, Dicta pour le pluriel de dictum en latin. Elle fait suite à Dicta 1, très étonnamment, inspirée par les 5 difficultés pour écrire la vérité, écrit par Brecht lorsqu'il fut dénaturalisé par le régime nazi.
Et alors ce film, il prend une forme particulière, il me semble, Sarah?
Eh bien, pour citer les termes du CAPC, d'influence conceptuelle et dadaïste, vous comprenez mieux mon jeu de mots, le film prend la forme d'un collage et regroupe un ensemble de déclarations inaudibles et contradictoires, aussi obscures que son image. Fin de la citation. Et ces déclarations sont puisées dans les safe words et aussi dans les écrits de Brecht. Il s'agit pour le spectateur de devenir un regardeur éveillé, politisé et conscient des rouages de son époque. Il sera pris, jusqu'au 6 mai, entre le sentiment d'entrave et d'effacement, mais ne soyez pas désespérés, vous qui passez la porte du CAPC. Cette expérience quasi anabatique est censée vous insuffler l'idée d'un nouveau langage, apte à résister à ces enveloppes vidées, mortifères, que sont les mots proférés aujourd'hui.
Bon, bah c'est pas très très réjouissant ça quand même, Sarah. C'est un printemps sous l'exomile que tu nous annonces là?
Mais non, ne t'inquiète pas Léa, voici une actu toute réjouissante. Vous ne connaissez sans doute pas Saint-Aurent de Gameville, la bien nommée, tout près de Toulouse, mais vous connaissez à coup sûr les Playmobil. Clin d'œil à Eva qui en a elle-même rencontré de curieux prototypes depuis qu'elle fréquente Madame. Eh bien, elle serait tout comme vous ravie de savoir que Saint-Aurent leur a permis de s'installer confortablement le week-end dernier sur plus de 600 mètres carrés. 100 fois plus que l'alcôve de Bonne Moisie où vous triturez vos manuels scolaires toute l'année, c'est vénard. Enfin, pas les manuels, les Playmobil. Les enfants âgés de 7 à 77 ans ont pu voyager à travers les époques et les contrées depuis le Moyen-Âge à la Belle Époque. Et allez, ne pleurez pas parce que vous avez raté cet événement majeur en France, dans le monde, dans l'univers tout entier.
Et pourquoi, Sarah, nous on a manqué l'avenue des Playmobil?
Certes, mais le sel des larmes assèche le visage et donne prématurément des rides. Déjà qu'on a des cernes, on ferait bien d'éviter ça, non? Je suis sûre que notre chroniqueur du tuto make-up validerait ce conseil de toute beauté.
Bon, dans ces jours troublés... Oui, pardon.
Il va être l'heure, Léa. Je suis désolée.
Il est l'heure, Sarah. Je que fait-on?
Je suis navrée.
Eh bien, nous disons fin de la culture. Bisous, mamie. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le script.
C'est pas la fin de la culture bisous, sur mamie. Transistor, d'accord? Alors, merci toutes les deux pour ce journal. On espère que ça aura donné des idées à nos auditeurs et auditrices, car manger, c'est bien, mais manger en se cultivant, c'est encore mieux. Alors, c'est l'heure maintenant du débat littéraire. Vous voyez, la culture n'est pas morte sur Transistor. Débat littéraire qui sera animé par Eva. Rebonjour, Eva.
Bonjour.
Et tu seras entourée par Louis et Sarah. On va redevenir un peu grave, car c'est une œuvre assez dure que vous avez choisie aujourd'hui.